L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. L'alimentation, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans L'EM, surtout cette année. Ce sont nos partenaires qui nous y invitent. Et puis c'est un sujet qui va bien au-delà des assiettes et de nos bouches. C'est un sujet de société, de culture aussi. C'est un sujet commun à toute l'humanité dans sa diversité. Chaque année, le Festival Alimentaire, alors ça s'écrit A-L-I-M-E-N-T-E, De ZRE, donc la terre bien sûr. Ce festival propose donc une sélection de documentaires autour des enjeux de l'alimentation, de l'agriculture en France et dans le monde entier. Pour nous en parler localement, c'est notre partenaire le CICODES, association de citoyenneté et de solidarité internationale, association d'éducation populaire aussi. On la retrouvera encore cette saison une fois par trimestre et le CICODES est représenté aujourd'hui par Anne-Claire Lucas. Bonjour.
Bonjour.
Alors alimentaire, ce festival, malgré les vicissitudes, a eu lieu l'an dernier, mais seulement en ligne, c'est ça ?
Tout à fait. Enfin, c'est-à-dire qu'il était au démarrage pensé pour être à la fois en ligne et en présentiel. Le contexte sanitaire a fait que toutes les projections du mois de novembre en grand public ont dû être annulées. Donc sur le Finistère, nous on avait à peu près 48 projections qui ont été organisées, mais seulement deux en présentiel ont pu avoir lieu. Sur le Finistère, voilà, personne n'a organisé de projection en ligne. Il y en a eu sur d'autres territoires. On pouvait s'y connecter d'ailleurs. Par contre, les projections scolaires ont pu avoir lieu puisque les établissements scolaires restaient ouverts malgré tout, même s'il y avait des questions de demi-jauge parfois. Mais voilà, donc il y a eu une vingtaine de projections scolaires sur le Finistère. Mais c'est vrai que voilà, ça a pas mal modifié, on va dire, la dynamique du coup de projection l'année dernière.
Ça fait longtemps qu'il existe ce festival alimentaire.
Oui, il a été créé en 2007. Au départ, c'était un festival vraiment parisien. La première année, et puis devant le succès, du coup le CFSI, qui est l'organisme qui coordonne le festival, a décidé de le proposer pour la France et même d'autres territoires francophones en dehors de la France.
Et ce qu'on garde de l'année dernière, c'est qu'il y a toujours en fait une édition en ligne qui aura lieu cette année, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le contexte sanitaire est encore malgré tout bancal ou en tous les cas incertain. La volonté, ça a été de conserver, de proposer les deux. De proposer quand même un festival en ligne pour s'adapter aux éventuelles contraintes qu'il y aurait sanitaires. Et puis également pour permettre à une plus grande partie de la population d'avoir accès au film. Certains peuvent encore hésiter à se déplacer dans un cinéma ou n'ont pas forcément une projection à côté de chez eux. Donc ça permet aussi ça, finalement, le festival en ligne. Mais bien sûr, l'essentiel des projections, c'est encore les projections en présentiel, on va dire, dans des salles de cinéma, des salles associatives, des médiathèques, etc.
Avec des débats à la clé, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit un film et puis on débat après.
Exactement. Et donc c'est ce que permet davantage, c'est vrai, même si dans les projections en ligne, il y a un échange qui est proposé après, mais c'est vrai qu'il est forcément différent, bien sûr, d'un échange en présentiel qui permet, c'est l'occasion généralement, de rencontrer des producteurs locaux ou en tout cas des acteurs locaux qui interrogent, mettent en réflexion finalement les questions du film sur leur territoire local. Et donc c'est tout l'intérêt justement de ces rencontres.
Oui, c'est ça, parce qu'on peut choisir donc dans un panel finalement assez large, surtout cette année, il est plus large que d'habitude. Il y a 9 films, c'est ça, c'est plus que d'habitude.
Oui, tout à fait, c'est un peu plus que d'habitude. Et j'ajouterais à cela que certains acteurs ont choisi, du coup, puisqu'ils n'ont pas pu organiser leur projection l'année dernière à partir de certains films qui leur tenaient à cœur, ils ont choisi de les reprendre cette année. Donc on a même deux films.
On a droit.
Qui sont, voilà, ouais. Alors en négociant les droits de diffusion, mais bien sûr. Mais voilà, du coup, c'est le cas pour deux films de l'édition de l'année dernière.
Et sinon, ce sont tous des documentaires et tous des documentaires récents, hein, c'est ça le principe ?
Exactement, on est toujours sur du documentaire, par contre, court, moyen, long métrage, la forme varie. On a aussi du film d'animation, mais voilà, à chaque fois à visée documentaire.
Donc, je ne sais pas si on aura le temps de parler des 9, on va essayer en tout cas, parce qu'après tout, on a quand même un peu le temps. On va les passer en revue, parce que derrière, évidemment, il y a des films, mais derrière, il y a les enjeux de la réalité dont on va parler. Alors, lequel on va prendre en premier ?
Alors, on peut démarrer éventuellement par le film Douce France, qui est un film qui est sorti l'année dernière, justement. Et en fait, dans ce film, on suit une classe de lycéens en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, qui enquête, avec leur, accompagnée par leurs enseignants, sur un projet qui s'appelle le projet Europa City, qui est un projet de construction d'un grand parc de loisirs. Quand on dit parc de loisirs,
c'est commercial aussi.
Commercial, mais c'est aussi des pistes de ski artificiel, par exemple. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez hors du commun, qui du coup va, pour, s'il est mené à exécution, va pour ça utiliser des terres agricoles.
Non mais en fait il a été abandonné.
Il a été abandonné, ouais. Mais il y a quand même une suite, c'est-à-dire qu'il a été abandonné dans sa forme telle que présentée dans le film, par contre ça revient avec un autre projet qui est voilà, qui a changé par rapport à
certains
aspects.
Ça revient par la fenêtre.
C'est... Exactement. D'accord. Et c'est un peu là-dessus, d'ailleurs, c'est un peu le film conclut un peu là-dessus sur, attention, même quand un projet de ce type, en tous les cas, est abandonné, voilà, généralement,
les promoteurs,
ouais, les promoteurs, etc., ont une autre idée en tête et puis essayent encore de... Voilà. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit des jeunes qui ne sont pas spécialement sensibilisés à la question des enjeux de relocaliser l'agriculture, de la question aussi des terres agricoles et de leur disparition, etc., et qui finalement découvrent au fur et à mesure tous ces enjeux-là. Et se forgent leur propre opinion. Donc, en tant que jeune, évidemment, consommer, avoir un
oui,
méga centre
de ski, c'est super.
Exactement. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ils partent de ça aussi et des perspectives d'emploi pour eux plus tard sur leur territoire aussi. Et c'est des questions qu'ils abordent. Et au fur et à mesure, du coup, ils essayent d'aller plus loin que ces premières représentations, du coup, sur ce projet et rencontrer les différents acteurs, toutes les personnes concernées et puis les personnes tant qui sont à l'initiative de projet, que les opposants. Et voilà, et donc on suit finalement particulièrement trois jeunes dans la classe et l'état de leur réflexion sur ce projet. Et c'est vraiment très intéressant.
Et donc ça s'appelle Douce France.
Tout à fait.
Alors ça c'est bien, le festival alimentaire, c'est aussi un festival qui fait un petit peu voyager, c'est ça, en Europe et puis même en Afrique, avec un autre film... C'est un Norvégien, je crois, qui va voir
un habitant du Malawi, tout à fait. Tout à fait, c'est le film War the Resilient. En fait, l'homme norvégien s'appelle War. Et donc lui, en fait, dans sa ferme, il subit une forte sécheresse. Et donc, il n'a plus assez de fourrage à donner à son bétail. Et donc, il doit abattre 13 vaches. Et donc, voilà, il y a aussi des très grosses, évidemment, inquiétudes financières. Et il est mis en relation avec un couple du Malawi qui, évidemment, subit de plein fouet les effets du changement climatique depuis déjà quelques années. Et donc, il va les rencontrer et à leur côté, il apprend finalement des techniques, de nouvelles techniques agricoles pour économiser au maximum l'eau et limiter, on va dire, autant que possible les effets de la sécheresse. Donc, c'est assez intéressant parce que, voilà, là, on a souvent, dans nos représentations, en tous les cas, peut-être l'idée reçue que les agricultures du Sud sont finalement, ne produisent pas assez parce qu'elles seraient pas assez, il y aurait pas assez de savoir, ou etc. Et on se rend compte, bien sûr, que c'est pas le cas, qu'il y a d'autres, il y a des savoirs qui sont réels et notamment de la pratique et que justement, des territoires qui sont affectés de plein fouet par le changement climatique ont beaucoup à nous apporter aussi, puisqu'on est tous concernés. Donc voilà, là, il y a vraiment un échange de pratiques. Et puis, ça permet aussi de relativiser quand même, puisque le Norvégien, par exemple, voit bien que pour les Malawis, en fait, quand ils subissent une forte sécheresse et que parfois ça arrive et que malgré tout, les pertes sont énormes, eh bien, en fait, il ne leur reste rien à manger. Ils dépendent de l'aide alimentaire, mais qui est quand même assez limitée. Là où, lui, dans son pays, malgré tout, il y aura un soutien de la part de l'État qui est quand même une capacité bien plus importante à pouvoir subvenir aux besoins de la population.
Oui. Il y aura des subventions. Voilà,
exactement.
Que n'auront pas les habitants du Malawi.
Exactement. Et puis dans les magasins, il restera toujours de la nourriture. C'est-à-dire que lui, son salaire va diminuer, évidemment. Il aura peut-être difficulté à s'alimenter, mais globalement, ça ne va pas autant affecter l'ensemble du pays. Puisqu'au Malawi, la proportion de personnes qui vivent de l'agriculture, c'est plus de la moitié de la population. Donc c'est vraiment très important. Quoi.
Mm-hmm. Donc ça, c'est un film qui s'appelle UAR, oui. The Resilient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à signaler ?
Toujours sur peut-être sur une approche internationale, on peut évoquer le film L'Arbre Providence. C'est un film qui est intéressant. En fait, il met le coup de projecteur sur des arbres particuliers que sont les arbres fertilitaires. En fait, on suit un Français qui s'appelle Bruno Devresse, qui a découvert au Sénégal, dans les champs, des arbres qui avaient une capacité particulière, c'est qu'ils sont capables de fixer l'azote de l'air et de le restituer au sol, donc pour en faire profiter les autres cultures sur la parcelle. Et donc, c'est un pouvoir, entre guillemets, qu'ont certains arbres, à l'image, en fait, de
pratiquement toutes les plantes, finalement. Mais...
De certaines plantes. Ouais. De certaines plantes. Hein, on pense, par exemple, aux haricots, etc., qui ont ces facultés-là. Mais dans les arbres, tous ne sont pas capables de le faire. Et du coup, les arbres fertilitaires sont très intéressants pour augmenter les rendements, mais pas seulement. Également, conserver davantage l'humidité, par exemple, du sol... donner aussi du bois, hein. Donc ça c'est très intéressant, ils en parlent dans le film, on voit comment du coup les paysans gagnent aussi à ce niveau-là finalement d'autres ressources parce qu'ils ont du bois de chauffe, etc. Donc ça c'est intéressant, et donc en tous les cas l'histoire de cet homme c'est qu'il a découvert en fait au contact des paysans cette pratique ancestrale, et finalement ils l'ont rediffusée à travers le Sénégal, au Togo et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc on voit en fait du coup les effets de cette pratique qui n'empêche pas en fait de cultiver d'autres choses, hein, parce que ça fonctionne sous forme de strates. Les arbres fertilitaires sont très très hauts, et en dessous du coup il y a des arbres qui ont d'autres échelles, on va dire, par exemple les bananiers, les cacaoyers, etc. Et donc ça fonctionne sous forme de strates, et donc voilà, et donc il a avec l'association qu'il a créée, hein, avec différentes personnes très engagées, ils ont du coup vraiment diffusé ce savoir là qui s'est perdu quand même. Dans le sens où on a enseigné aux paysans à battre les arbres pour cultiver davantage. C'est ça qu'on a enseigné. Et donc il réinstaure ça, et c'est pas sans peine parce qu'il y a des pressions qui sont exercées sur lui qui sont assez fortes. Mais voilà, c'est tout ce qu'on suit dans le film et qui est vraiment très intéressant.
Il y a des obstacles, ouais. L'arbre providence. Est-ce qu'il y a d'autres films qui nous emmènent en Afrique peut-être, ou même... Oui, il y en a un notamment qui nous emmène au Burkina, au Pérou, en Indonésie, sur le paradoxe de la faim.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un court-métrage qui justement est un film animé, en fait, hein, et qui, donc, son nom l'indique, hein, en fait, pointe le paradoxe du fait qu'aujourd'hui, dans la population qui souffre de la faim, un peu plus de 800 millions de personnes... on estime entre eux la moitié à 80% de ces personnes-là sont soit des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des personnes qui nous nourrissent. Et donc il y a là un grand paradoxe évidemment, et qui ne peut pas se résumer seulement à on ne produit pas assez pour nourrir la planète, puisque selon pas mal de scientifiques aujourd'hui, on pourrait produire ou on produit pour nourrir 12 milliards d'êtres humains. Donc, et on n'est pas encore, bien sûr, puisqu'on est à 7,7 milliards. Donc ça montre bien que ce n'est pas une question de manque de nourriture, mais c'est ce que montre le film, du coup, en 10 minutes, donc c'est très court, que finalement, la question de la faim dans le monde est étroitement liée avec les choix politiques et économiques mondiaux. Donc il décortique ça avec trois exemples assez courts. Les effets d'une part de la libéralisation des échanges, avec l'exemple du Burkina Faso et de la production laitière, donc où nous, notre lait, le surplus de lait en Europe, hein, est exporté en Afrique, et bien concurrencé le lait local.
Oui, parce qu'il n'est pas cher du tout, là, notre lait.
Tout à fait. C'est du lait écrémé qui est réenrichi avec de la matière grasse végétale, huile de palme, hein, essentiellement, parce que c'est le moins cher.
En plus.
Donc en plus, ça pose aussi des questions sanitaires, vraiment, hein, de santé publique. Donc on a deux autres exemples. On a l'exemple du Pérou, qui en gros a été poussé à faire de la culture d'exportation avec les avocats et tout ce que ça veut dire, du coup, de ne plus avoir d'agriculture vivrière dans le pays. Et le troisième exemple, c'est en Indonésie, avec la production d'huile de palme, et notamment on fait le lien avec, du coup, la fabrication d'agrocarburants. Donc on produit pour mettre de l'essence dans nos voitures et pas pour manger. Donc c'est encore un troisième grand problème, on va dire, du désordre alimentaire mondial. Donc voilà, c'est un film très concis, mais où il y a quand même beaucoup de fond. C'est un film qui est court, mais on peut prendre pas mal de temps pour débriefer autour des idées du film.
Mais riche.
Ouais. Tout à fait.
Et alors justement, pour aller encore du monde jusqu'à nous, on peut utiliser comme transition ce film Sur le champ, peut-être, qui se demande quels sont les mécanismes qui justifient qu'un aliment venu de loin coûte moins cher qu'un aliment produit localement. On en a parlé déjà pour le Burkina. Donc, alors ça, c'est Sur le champ de Michael Antoine.
Oui, alors, sur le champ, je reprends en même temps mes notes sur chaque film. Sur le champ, c'est un film... C'est un film en effet qui va découvrir en fait à travers la planète des différentes manières de finalement produire autrement et différentes initiatives à travers la planète qui sont mises d'ailleurs en relation les unes avec les autres, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des il y a un écho entre guillemets entre des finalement le fait de par exemple se rapprocher des consommateurs par exemple de réduire en fait les intermédiaires partout dans le monde, ça va avoir les mêmes effets, c'est-à-dire du coup de pouvoir être mieux rémunéré directement, mais aussi de rapprocher le lien entre le consommateur et le producteur en termes de connaissances communes finalement, de ce qu'apporte en termes de confiance, et puis aussi de ce pourquoi justifier finalement le coût d'un produit par exemple, etc.
Pourquoi payer un peu plus cher un aliment, c'est pour faire vivre des gens localement, quoi, tout simplement. Alors ça, c'est un film qui apporte des solutions, qui est très positif et qui se pose un peu la même question que bien d'autres films d'ailleurs. Alors, les alternatives au système agro-industriel, c'est aussi la question de nourrir le changement, par exemple.
Oui, oui, tout à fait. Ce sont des films qui se font en effet écho l'un à l'autre, hein, avec des exemples qui sont donnés qui sont différents. Mais dans Nourrir le changement, en fait, on part là, on va découvrir la situation de la canne à sucre au Kenya, de l'arrivée de poulets congelés et donc la filière d'élevage des poulets à Mayotte. Au Costa Rica, on découvre aussi l'exportation de café et de cacao. On part aussi en Bolivie en même temps dans une communauté. Et donc sur chaque territoire, en tous les cas, à partir d'une situation qui a été un problème, une difficulté, on découvre du coup une initiative qui a permis de contrebalancer entre guillemets la difficulté initiale. Donc par exemple le fait de s'organiser en groupement de producteurs et de faire d'obtenir un label pour pouvoir valoriser qualitativement sa production et d'être trouvé un partenaire par exemple équitable, hein, du coup de développer une filière équitable
qui paye un juste prix en tout cas, voilà.
Exactement, ouais. C'est cette question là sur la base d'une difficulté, enfin d'une difficulté, d'une limite de notre système alimentaire et agricole actuel, quelle initiative a pu être portée par des paysans à travers le monde.
Donc ça, c'est Nourrir le changement. Puis il y a un film qui semble un peu proche aussi sur toujours comment sortir des systèmes agro-industriels. Enfin, là, il s'agit d'élevage et ça s'appelle Au-delà des clôtures.
Tout à fait. Au-delà des clôtures, c'est un film là qui se situe entièrement en France. On suit en fait le parcours de trois fermes, à chaque fois de vaches laitières, qui sont différentes. Hein. L'une est en Haute-Marne, l'autre est en Maine-et-Loire et la dernière en Finistère d'ailleurs. Et donc pour chacun de ces acteurs-là, on va dire, de ces paysans-là, on suit leur cheminement. À chaque fois, ça démarre donc par la limite du système dans lequel ils étaient. Donc c'est les investissements ultra conséquents qu'ils ont dû réaliser, les charges très fortes, et puis un prix du lait qui va toujours en diminuement. Une intensification aussi des méthodes de production, et avec au bout d'un moment une terre qui est de moins en moins fertile. Et puis aussi un rythme de travail qui est complètement effréné, enfin vraiment sans fin. Sur chacune de ces fermes, on voit le moteur finalement qui est en partie économique, hein, de souhaiter vivre de son travail dignement, tout simplement, mais pas seulement, mais en tous les cas, la recherche d'une double équation, à la fois du coup diminuer les coûts de production, donc moins dépendre finalement pour réduire ça, donc des intrants chimiques, mais aussi finalement de l'aliment à donner au bétail.
Cultiver soi-même l'aliment pour le bétail, quoi, par exemple.
Exactement, par exemple.
Ou nourrir à l'herbe.
Donc ils partent là-dessus, mais donc il y a ce double enjeu de diminuer les coûts de production et d'améliorer la qualité du lait. Et donc pour ça, les trois fermes choisissent de passer à l'herbe, notamment, il y a différents changements, mais il y a notamment celui-là qui est le principal. Et ils évoquent du coup leur parcours avec les difficultés qu'ils rencontrent, les étapes qui leur permettent d'y arriver progressivement, les questions qui se posent et puis le chemin qu'il leur reste à parcourir. Et voilà, c'est un film vraiment où on suit le questionnement de ces agriculteurs qui à tout âge finalement, parce que c'est et pour des raisons parfois en partie différentes, mais en tous les cas font des choix pour arriver à allier au plus du coup les enjeux économiques, environnementaux et puis de qualité de vie également.
Et paysager, puisqu'on revoit des vaches dans les prés, du coup.
Exactement. Et d'ailleurs, dans un des films, ils évoquent ça, le fait que d'un point de vue social, c'est beaucoup plus gratifiant. Les voisins viennent les voir, prennent les vaches en photo. Enfin, il y a cette, ils sont contents de voir cultiver du trèfle à côté de chez eux. Enfin, vraiment, c'est hyper gratifiant pour eux aussi, le regard, du coup, des consommateurs ou du voisinage sur leur changement de pratique, quoi.
Donc là, ce film s'appelle Au-delà des clôtures. Alors, on part de la campagne, mais le festival alimentaire nous emmène aussi en ville. Et dans Le Festin, on s'interroge justement sur quoi, sur qui repose l'alimentation des villes, puisque la majorité des gens vivent en ville. Hein, donc,
Oui, tout à fait. Là, on est au Sénégal. Et en effet, dans ce film, en fait, on voit différentes difficultés auxquelles sont confrontés les paysans et les pêcheurs, qui est la question notamment de l'accès à la terre. Donc, il est question d'accaparement des terres, en fait. Hein, comme dans pas mal de pays, au Sénégal, on a deux droits qui coexistent en même temps, un droit foncier qui est coutumier et un droit foncier dit moderne, entre guillemets. Et c'est-à-dire que le droit coutumier, c'est le fait que les terres finalement se transmettent de génération en génération, mais il n'y a pas véritablement de documents juridiques qui le reconnaît, hein. C'est reconnu de manière entre guillemets informelle et orale. Et puis depuis 1964 pour le Sénégal, du coup c'est l'État qui devient entre guillemets maître du sol et qui finalement attribue à son bon vouloir les terres. Et donc c'est une grande difficulté auxquelles sont confrontés de nombreux paysans à travers la planète. Et donc voilà, c'est une des questions du film. Et pour les pêcheurs, c'est la question aussi finalement transposée à la mer de leur droit de pêcher en mer, puisque depuis 2015, si je me trompe pas, ou 2014, il y a un accord de pêche qui permet aux bateaux européens de venir aussi pêcher en eau sénégalaise, et donc il y a de moins en moins de poissons, et donc c'est une grosse difficulté pour eux, parce qu'eux ne vont moins loin que les bateaux de pêche européens, donc ils sont de plus en plus limités dans leur pêche par la quantité de poissons qui est disponible.
Donc c'est un film qui s'appelle Le Festin, mais où il n'y a plus rien à manger finalement. Pour terminer, un film très concret, hein, qui s'interroge sur l'alimentation d'une famille européenne et ses impacts. Manger autrement, l'expérimentation.
Exactement. On suit trois familles, en fait. Deux Autrichiennes, une Française. Et l'idée, en fait, qui est assez intéressante, c'est qu'en fait, ils ont, pour rendre ça visible, finalement, de comment on se nourrit, en fait, actuellement, en moyenne, hein, en Europe. Et en fait, ils ont modélisé, ils se sont rendus compte qu'un Européen moyen utilise 4400 hectares de terre pour se nourrir. Et donc, ils ont vraiment créé ce champ et cultivé sur le champ exactement ce qu'il faut pour nourrir une famille à l'année. Et donc, ils ont reproduit le champ d'un point de vue pédagogique, aussi en le scindant en espace, ce qui est produit normalement sur nos territoires nationaux et ce qui est produit à l'échelle internationale. Donc, on se rend compte qu'il y a un pourcentage assez important qui est produit, qu'on doit importer. Donc. Et puis, aussi, ce qui sert à nous nourrir directement, ce qui sert à nourrir le bétail. Et donc, là aussi, la proportion est assez intéressante. Et donc, au fur et à mesure, les familles sont suivies et accompagnées pour faire changer leur pratique alimentaire. Donc, voilà, c'est aussi ça que met en exergue le film, avec différentes initiatives et où on voit des familles cheminer, finalement, au fur et à mesure, et réduire au fur et à mesure leur empreinte écologique, finalement, alimentaire, quoi.
Voilà, donc là, on a le panel de tous les films qui sont présentés à l'occasion du festival alimentaire qui a lieu, je rappelle, jusqu'au 30 novembre, donc ça nous laisse le temps. Et le CICODES, en tout cas pour ce qui concerne le Finistère, organise quelques séances avec des intervenants, peut-être, enfin, en tout cas qui sont ouvertes au public, alors on va les signaler.
Oui, tout à fait. Alors, on organise une projection le mardi 23 novembre à 20h à l'Artémuse à Briec. Donc, ça sera un film de l'année précédente, donc, qui s'appelle Femmes de la Terre, qui sera en présence à la fois d'une ou deux agricultrices qui est présente, enfin du film, hein, qui est d'Aveyron, et puis des agricultrices briéquoises. Un autre film également qu'on va proposer, par exemple, ça sera le film Au-delà des clôtures, dont on a parlé tout à l'heure, le 10 novembre à 18h15 à la médiathèque d'Erguermel. Voilà, pour donner deux exemples, mais je peux aussi citer par exemple Sur le champ le 2 novembre à Mouillan-sur-Mer, qui est organisé par l'association Optimisme, et qui aura lieu la projection aura lieu à 20h30.
Avec une association, je suppose, qui s'appelle La Lande Fertile, qui sera là pour les discussions qui suivent la projection, c'est ça ?
Qui suivent la projection, tout à fait. On peut également signaler que de nombreuses projections auront lieu dans les lycées agricoles ou lycées généraux, professionnels, etc.
Et les animatrices du CICODES organisent peut-être des ateliers aussi autour de ça ?
Tout à fait, des animations, en effet, autour de quatre des films de la sélection de cette année.
Et par exemple, qu'est-ce que c'est comme type d'animation là ?
Alors, on va organiser, par exemple, un jeu qui s'appelle La Fresque du Climat, autour du film VAR, The Resilient, dont on a parlé tout à l'heure, qui est en lien avec le changement climatique, pour comprendre tous les enjeux systémiques liés au changement climatique. On va organiser également une animation autour d'un jeu qui s'appelle Le Menu, où on doit réaliser des menus à partir de certaines contraintes, on va dire, pour faire le lien avec le film Manger autrement.
Par exemple, pas de viande ou...
Exactement, tout à fait. En tous les cas, pour mesurer du coup le lien qu'il y a entre du coup, la construction de nos menus et tant l'aspect économique et l'aspect environnemental avec l'empreinte écologique. Et donc, l'ensemble des menus ne doivent pas dépasser du coup l'empreinte écologique durable de la planète. Voilà, donc ça, c'est une autre des animations, par exemple, qu'on propose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup, parmi les films qu'on a cités? Oui, autour du film du paradoxe de la faim, on organise, du coup, là aussi une animation qui permet, du coup, de mettre en scène un peu, de manière figurative, les différentes inégalités mondiales par rapport à l'accès à l'alimentation et à l'agriculture dans le monde de manière générale, pour que ce soit plus facile à toucher du doigt, on va dire, de manière à la fois, visuel et puis aussi en se mettant du coup dans la peau des différents habitants de la planète pour les jeunes. Donc ça, c'est la troisième animation qu'on propose. Et puis la dernière, ça va être autour du film Au-delà des clôtures, qui est particulièrement intéressant, notamment, pas seulement, mais en milieu agricole, qui est vraiment intéressant, puisqu'il questionne aussi du coup des choix de mode de production qui peuvent intéresser beaucoup les jeunes.
Les élèves de lycée agricole, c'est ça en fait, il y a les interventions ont lieu aussi dans les lycées agricoles, c'est un peu le but de ce festival.
En tous les cas, ils sont très demandeurs, et puis nous, ça nous plaît énormément d'en parler avec les premiers concernés, en tous les cas des acteurs majeurs de la chaîne. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais c'est intéressant.
Bon, et bien voilà, le festival alimentaire, alors Terre, ça s'écrit TE2RE, le site internet pour se renseigner, c'est alimentaire.org, et puis de toute façon, vous trouverez tout ça sur le site de radioévasion.net, et c'est donc jusqu'au 30 novembre. Merci Anne-Claire Lucas.
Et à bientôt, merci.
Et à bientôt, le Psychodèse, on le retrouvera dans un trimestre à peu près.